7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
Bonjour à tous et bienvenue dans 7 milliards de voisins et de voisines. Bonjour Romain à la Réal. Le déterminisme social est-il encore une fatalité? C'est la question que nous vous posons et que nous posons à nos invités. Elles sont femmes, filles de la République, femmes issues de l'immigration et de quartiers populaires. Elles ont toutes surmonté les obstacles pour renverser les clichés liés à leurs origines sociales, ethniques et réussir professionnellement. Elles sont devenues journalistes, autrices, réalisatrices ou chefs d'entreprise. Leur soif de liberté et d'indépendance et leur désir de se distinguer, de sortir de la norme leur a permis de briller. Aujourd'hui, elles témoignent et partagent leur parcours pour inspirer. Alors comment ont-elles fait de leur double, culture une force? Comment lutter contre le déterminisme social? Nous en parlons avec elles. Sont-elles des filles modèles? On va le voir. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont toutes les trois made in France. Elles ne restent pas à leur place. Elles sont là où personne ne les attendait. Bonjour à toutes les trois. Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste, réalisatrice, conférencière internationale et auteur. Ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait? Donc aux éditions Marabout. Et Absa Toussi, juste à côté de vous. Bonjour, hein, Rokhaya.
Bonjour, Samira.
Présentatrice aussi sur BT TV. Tellement de choses à dire. Absa Toussi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes animatrice de télévision et autrice de ce livre Made in France, sorti aux éditions Hugo Doc. Et Grace Lee, bonjour, Absa Tou.
Bonjour,
Grace,
Samira.
Vous êtes auteur et journaliste à l'origine du podcast Kif Taras, diffusé sur Binge Audio et que vous co-animez d'ailleurs avec Rokhaya Diallo, ici à ma gauche. Vous publiez également Jeune fille modèle chez Fayard. Bonjour Grace.
Bonjour Samira.
Bonjour à toutes les trois.
Bonjour. Comment Samira.
Très bien. Dites-le comme ça, un trio. Bonjour Samira. Alors, vous le savez, vous aussi les voisins, nous attendons vos témoignages, vos commentaires, vos questions et réactions sur WhatsApp pour nous laisser un message ou bien au 33 1 84 22 71. 71.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
7 milliards de voisins, 3 femmes, 3 livres, 3 parcours, très riches. Le déterminisme social est-il encore une fatalité? C'est la question que nous vous posons et c'est la question qu'a posée Justine Rodier à Kenza, Ryan et Augustin. Justine s'est rendue devant deux lycées de Paris, le lycée Henri Bergson, situé dans un quartier traditionnellement populaire du 19e arrondissement de Paris, et le lycée Molière du très chic 16e arrondissement. Derrière leurs 18 ans, Kenza, Ryan et Augustin ont essayé de faire le lien entre leurs origines sociales, leur éducation et leur avenir professionnel. On écoute.
Je m'appelle Kenza Boukatem et je suis à Bergson. Je dirais que je viens de la classe moyenne, pas trop riche, pas trop pauvre. Je suis pas issue d'un milieu super favorable scolairement, je suis une fille, je suis maghrébine, enfin il y a forcément un plafond de verre. Évidemment, ça influe dans ma manière déjà de réagir, de parler. Et donc à l'école, ils attendent certaines normes ou valeurs qu'on n'inculque pas spécialement dans mon milieu. Il y a certaines personnes qui prennent plus de plaisir que moi ou qui sont plus habituées que moi à travailler. Des fois, je parle avec des gens, je me sens un peu débile parce qu'ils ont une culture générale de fou. Ou alors, les mots, même la manière de s'exprimer, ils ont des mots plus travaillés que les miens.
Je m'appelle Ryan, j'ai 18 ans, je suis en première ES et je vis avec ma maman. Je suis née dans un milieu plutôt aisé, mais en Algérie. Et en France, je suis pas non plus dans un milieu aisé, mais je suis dans une classe ouvrière, on va dire. Par rapport à l'école, c'est plus négatif parce que déjà, chez moi, on parle pas français. En plus, j'ai des petites sœurs. Et vu qu'on habite toutes les quatre dans un studio de 12 mètres carrés, donc il n'y a pas de place pour travailler. Ma mère, elle n'est pas non plus... elle suit pas mon éducation, donc je me suis toute seule. Et donc, je suis pas accompagnée.
Je m'appelle Augustin, je suis un élève de première ES.
Comment est-ce que tu décrirais ton origine sociale?
Moyenne, classe moyenne élevée. Enfin, mon père gagne assez bien sa vie, du coup, c'est rassurant. Moi j'assume totalement. Et forcément, je me rends compte que ça aide quand même pas mal dans la vie. Par exemple, il y a plein de trucs qu'on peut faire, partir en voyage avec des copains, partir à l'étranger. Par exemple, moi je suis parti un an à l'étranger. On a forcément beaucoup plus de chances dans la vie, plus d'opportunités.
Est-ce que toi, t'as l'impression que la vie que tu auras plus tard va ressembler à celle de tes parents ?
J'espère pas. Enfin, je me donne un minimum les moyens de pas être employée de pressing, par exemple. Ma mère, elle travaille là-bas.
T'aimerais faire quoi plus tard ?
J'aimerais bien travailler dans le marketing, dans l'événementiel. Je sais que ça peut être difficile parce qu'il faut passer par des écoles de commerce et tout.
L'année prochaine, je vais faire une prépa payante.
Tu vas faire quoi comme prépa ?
Une prépa accès et sésame. C'est les concours post-bac.
Pour quelle école ?
L'ESCA et aussi l'ISEC. Une école de commerce 11e au classement de la France, je crois. Pour qu'on se le dise honnêtement, forcément, quand les parents sont derrière, c'est tout de suite plus simple que de prendre une bourse d'études et de faire un prêt étudiant.
Après, faut pas se ranger dans la case, il y a des inégalités, alors du coup, je vais rester là et puis c'est pas ma faute, du coup, c'est comme ça. Faut, entre guillemets, se battre pour passer au-dessus. Mais oui, c'est chiant de savoir que pour le même résultat, faut que je travaille plus.
C'était un reportage de Justine Rodier, Rokhaya Diallo, Absatoussi, Grassly. J'imagine que ça vous évoque énormément de choses que vous venez d'entendre. Cette conscience de la classe sociale à laquelle nous appartenons, cette conscience aussi des difficultés peut-être que ces jeunes vont devoir affronter. Qu'est-ce que ça vous évoque, Rokhaya Diallo ?
Mais évidemment des choses très familières, parce que bah déjà il se trouve que j'ai grandi dans le 19e arrondissement, donc je connais le lycée Bergson. Ce qui est frappant, c'est quand même la conscience de classe très aiguë dont font preuve ces jeunes personnes. Je pense que très très jeune, très tôt dans notre vie, on est amené à être conscient en fait de l'endroit où on est situé socialement et de la séparation, du gap qui nous sépare des classes sociales supérieures ou de la chance qu'on peut avoir. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le jeune qui vient du lycée Molière dans le 16e et a conscience aussi du fait qu'il a un certain statut social, un certain confort à la fois de vie et de choix, parce que ses parents peuvent lui assurer en fait la possibilité de financer des études relativement onéreuses. Donc ça me parle, c'est intéressant parce que c'est vrai que on dit souvent que quand on veut, on peut, et c'est vrai que la volonté personnelle peut être déterminante dans le fait de réussir, mais quand même, le contexte social joue une part très très importante, et on voit que ces jeunes-là, qui ont à peine 18 ans, n'ont déjà pas les mêmes chances dans la vie.
On reviendra sur cette expression « quand on veut, on peut », parce que vous avez un point de vue assez intéressant là-dessus. Absatou, si vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce que j'ai vu dans votre livre que vous le disiez vous-même très tôt, vous aviez cette conscience qu'il fallait en faire plus que les autres, aller plus loin, pas parce que vous aviez un retard à rattraper, mais juste qu'il fallait travailler plus.
Pour être à ma place, juste pour être là où je l'avais décidé, juste pour être celle que je voulais être et prendre ma place dans la société parce que je l'avais décidé. Moi, j'entends effectivement ce que disent ces jeunes, c'est un constat. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un constat. Mais ce constat, après, il évolue selon les actions que l'on prend. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe d'où l'on vient, je pense aujourd'hui, en tout cas en France, on peut derrière décider de faire mentir immédiatement le déterminisme social, parce que je considère, par exemple, moi je viens d'une famille, on est 8 enfants, mon père était ouvrier, ma maman était mère au foyer, j'ai pas du tout l'impression que le déterminisme social a fonctionné. Je crois plutôt que j'ai imposé à la société de ce principe de méritocratie qui n'était pas gagné d'avance, et je pense qu'effectivement il y a un constat, mais c'est pas parce qu'on grandit dans un milieu aisé qu'on a plus de chances pour moi de réussir, parce que pour moi, la réussite, elle dépend d'autre chose que des moyens financiers. Et je pense que quand on grandit dans un milieu difficile, oui, c'est difficile, oui, il y a plein de choses compliquées, mais on peut aussi se servir de ces difficultés pour en faire des forces et en faire une sorte de bagage que d'autres n'auront pas parce qu'ils auront grandi dans un environnement beaucoup plus lisse, beaucoup plus policé, beaucoup plus protecteur. Donc, moi, je suis un peu la militante
du... Vous dites que c'est même un moteur, finalement.
Oui, moi, je pense que c'est effectivement... Pour ma part, ça a été un moteur. Pour beaucoup de jeunes, ça peut l'être. Dès lors qu'on leur ouvre les yeux sur le fait qu'autour d'eux, il y a des opportunités que seuls peuvent avoir et pas les autres.
Grâce à vous partager ces idées.
Oui, moi, je suis d'accord avec ce que Rokhaya et Absatou ont dit avant. Et il y a aussi le témoignage de la jeune femme qui s'appelle Ryan qui résonne particulièrement en moi. Parce que souvent, je remarque que on fait une confusion entre origine sociale et culture d'origine. C'est-à-dire que là, vous avez une espèce de contradiction entre le 16e et Augustin. Donc, je ne sais pas quelle est son apparence physique, mais peut-être qu'il est blanc. Et de l'autre côté, vous avez deux personnes qui sont issues du 19e, enfin, je sais plus, les 19e, mais peut-être un autre quartier, et qui sont d'origine maghrébine, peut-être arabe. Et du coup, on a l'impression qu'il y a une espèce de fossé entre les deux. Et ce que dit Ryan est très intéressant, et je pense que je me retrouve là-dedans, c'est qu'elle, elle dit que ses parents étaient des personnes assez lettrées avant. En fait, on étudie souvent les immigrés à partir du moment où ils arrivent sur le territoire.
Tout à fait, ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est faux, parce que le bagage que vous portez social, culturel, il va au-delà de votre entrée sur le territoire français. Et du coup, je pense que c'est assez réducteur de
oui,
penser déterminé social culturellement.
Oui. Vous-même, vos parents étaient médecins.
Alors moi, c'était des lettrés, mes parents. Quand ils sont arrivés à Paris, évidemment, enfin en France, comme Ryan, ils se sont retrouvés dans une classe sociale plus basse que celle d'origine.
Il fallait tout reprendre à zéro.
Il fallait tout reprendre. Donc ouais. Pour eux, c'était difficile. Mais en une génération, leurs enfants ont retrouvé un niveau qui était équivalent à celui qu'ils avaient quitté avant leur exil. Mmh. Donc ça, je pense que c'est aussi une question très importante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se transmet. Et donc le déterminisme, effectivement, ce n'est pas fatal. Et je pense que les pratiques pédagogiques françaises nous permettent de lutter contre ce déterminisme-là. Après, il ne faut pas non plus nier le privilège et voilà tout ce que véhicule aussi le fait d'être aisé, le fait de pouvoir transmettre quelque chose de manière économiquement facile. Et puis, en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs points de vue possibles par rapport à cette question. Et c'est ça qui est intéressant de voir ça avec vous.
Je vous propose de partir au chat maintenant, d'écouter notre auditeur Janvier, qui nous appelle de N'Djamena et qui, lui aussi, fait écho un petit peu à l'idée de d'Absatou, de surmonter les difficultés, puisque lui-même vient d'un milieu rural au Tchad. Ses parents ne voulaient pas vraiment forcément qu'il continue ses études. Il s'est battu. Il allait jusqu'à faire 24 km aller-retour à pied pour aller au collège. Tout cela a payé, puisque aujourd'hui, il est diplômé. Il est en master. Allô ? Bonjour, Janvier.
Bonjour, Samira Brahim.
Comment allez-vous,
bonjour,
Janvier ?
Samira Brahim.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ?
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio mondiale.
Comment allez-vous, Janvier ? Parlez-nous un petit peu de votre parcours.
Écoutez, je vais très bien, Samira Brahim.
Parlez-nous de votre parcours. Alors, vous, vos parents n'avaient pas forcément envie que vous continuiez vos études, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement. Mais avant d'y arriver, il faut savoir que Dieu nous a créés en nous donnant toutes les possibilités pour créer notre propre destin.
Oui.
Donc, suite à cette vision, je me suis dit, il va falloir que je puisse tout faire pour réussir à l'école. Alors que mes parents n'avaient pas une vision positive de l'école, ils passaient par toutes les tentatives pour m'affiner au désespoir et au découragement. Mais je fais de mon mieux pour pouvoir moi-même essayer de financer mes études en allant à Brousse faire la cueillette des fruits sauvages pour aussi revendre et financer mes études. Donc les parents, d'une certaine manière, ne voulaient pas que je puisse continuer avec les études parce que pour eux, il va falloir que je reste à leur côté pour les aider dans les travaux champêtres.
Comment vous avez réussi à surmonter la vie de vos parents ? Parce que vous êtes quand même battu, ce n'était pas évident. Il fallait, vous n'avez pas été accompagné, il fallait aller plus loin, chercher une école. Et même quand vous êtes arrivé à l'université, apparemment votre tuteur ne vous a pas encouragé non plus à passer votre master.
Effectivement, au départ, mon tuteur avec qui je restais après le décès de mon papa avait décidé brutalement, quand j'ai obtenu le concours d'entrée en 6e, que je puisse rester à ses côtés à la maison pour ne pas continuer mes études. Mais je continuais moi-même à aller-retour 24 km par jour. Et arrivé à l'université, mon second tuteur m'avait soutenu tout le long du cycle de licence. Mais lorsque j'avais décidé de pouvoir postuler pour le test de master, il avait dit subitement non parce que lui, il manquait des moyens et il avait d'autres charges à prendre. Mais je me suis dit qu'il va falloir que je puisse aller au bout de ma logique en ayant une réussite à l'école et non pas autrement. Et c'est comme ça que j'ai fourni les dossiers en dehors de lui pour pouvoir postuler au test de master. Je suis admis, mais après quelques instants, il était revenu au bon sentiment et aujourd'hui, il a décidé de revenir à nouveau pour me soutenir à l'école. Donc, c'est là pour dire que le chemin de la réussite est émaillé de beaucoup de difficultés, de beaucoup d'obstacles et que les jeunes doivent aussi s'armer de courage et d'ardeur pour réussir dans la vie.
Vous êtes têtu, en tout cas, bravo Janvier, et vous avez eu raison. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui alors ? J'imagine que ça a payé.
effectivement, tout ce que j'avais surmonté comme les épreuves, les difficultés à payer, aujourd'hui, je me sens très heureux parce que je suis en train déjà d'aller vers mon destin, vers ma réussite. Et les autres qui étaient avec moi ont abandonné les écoles, ils ont regagné le village pour ne serait-ce de s'occuper que de l'agriculture. Aujourd'hui, ils regrettent parce que moi, je suis à un niveau où il me reste seulement que 2 ans pour pouvoir aussi me battre dans la vie active. Et je vais forger moi-même mon destin pour aussi aider les parents et aider mon entourage et éventuellement contribuer au développement de mon pays. Donc tout a payé parce qu'aujourd'hui, par le travail et par la volonté, par la détermination d'aller jusqu'au bout de la logique des choses, de façon positive, a payé positivement.
Merci infiniment, Janvier, pour votre témoignage très touchant, très poignant et très inspirant. Merci et j'espère pouvoir entendre votre voix à nouveau dans notre émission 7 milliards de voisins. Bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous également.
C'est un petit peu ce que vous dites les filles, hein, vous aussi. Hein. Il faut se battre, rien n'est facile, rien n'est gagné d'avance. C'est quand même compliqué quand on n'a aucun soutien, quand les plus proches, parce que toutes vous avez eu cette chance familialement, que ce soit Absatou, Rokaya ou Grâce, la famille était là, a soutenu. Non, pas vraiment Absatou.
Pas forcément au début, parce que... moi,
mais
j'ai
pour
eu...
les études. Alors, je vois que la famille était très présente.
Non, en fait, ce qui est sûr, c'est que l'objectif de mon papa, c'était qu'on aille à l'école. Il avait conscience d'à quel point ça pouvait changer nos destins. Mais en réalité, mes parents auraient préféré que je gagne ma vie beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite, parce qu'effectivement, ils étaient dans le besoin.
Mais
ouais, moi, ce que je pense, c'est que Janvier, moi, j'ai envie de dire Janvier président, déjà, parce qu'il a une énergie absolument incroyable, mais il dit quelque chose de fondamental, c'est l'enseignement, l'école. L'école a ce rôle d'éduquer. Parce qu'on dit qu'ils n'éduquent pas,
d'ailleurs,
ils enseignent.
Vous rendez hommage à l'école, à vos enseignants.
Ma préface a été faite par mes profs.
Tout à fait.
J'ai insisté pour cela parce qu'ils ont été les premiers à me dire « Oui, c'est possible. Oui, tu as le droit de rêver et de transformer tes rêves en quelque chose de concret. » Ils ont été jusqu'à militer auprès de mes parents pour que je poursuive mes études le plus loin possible. Et moi, je pense qu'il y a une véritable...
Pourtant, ils vous orientent. Hein. Ils ne vous permettent pas d'accéder à des classes générales.
Ah si, ce que je cite dans le livre, oui. Si. Clairement, d'accord. Ils se battent pour que je puisse aller vers
l'enseignement
les choix
général.
Mais moi, je n'avais pas envie d'aller vers l'enseignement général. Je considérais qu'en fait, j'étais un peu un adulte dans un corps d'enfant et que le parcours professionnel était plus adapté pour moi. J'avais envie d'aller auprès des adultes très vite et de fuir ce monde d'enfant qui n'avait jamais finalement été le mien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre... culture et intelligence. Et en fait, c'est vrai que d'aller à l'école, d'apprendre, de s'armer sur le béaba et sur des choses qui vont nous permettre ensuite d'aborder l'école de la vie, qui est la plus formatrice à mon sens, est fondamental. C'est important. Moi, je voyais ma maman qui mettait 5 minutes à signer un papier parce qu'elle ne savait pas lire, pas écrire. Je sais à quel point l'enseignement est important et l'école est important. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les filles en Afrique aujourd'hui ne vont pas assez à l'école. Et si on leur permettait d'aller un peu plus à l'école, ça créerait encore plus d'entrepreneurs, parce que la femme est l'entrepreneur de l'Afrique. Elles ont toutes envie de monter des business. Elles ont des tantines. Elles sont là. Elles mettent en place des actions pour changer leur destin. Il leur faut quelques armes. Et pour ça, pour moi, l'éducation en fait partie. Donc je pense qu'il dit quelque chose de très important, c'est que dès lors qu'on a accès aux bases même de l'école, on multiplie par 5, 6, 7, 8 notre possibilité d'y arriver dans la vie. Alors après, il y a plein d'autres ingrédients qu'il faut ajouter à cela. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'on fait une grande école, l'ENA ou autre, qu'on a un avenir à terme qui sera meilleur que d'autres.
Quoi,
moi, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po et tout. Et j'interviens en conférence maintenant là-bas pour expliquer aux gamins à quel point c'est important d'échouer dans la vie pour apprendre. Parce qu'ils n'échouent jamais, ces gamins.
Rokaya Diallo, vous le dites dans votre livre. Pour vos parents, c'était essentiel, l'école. Ouais. Il fallait avoir de bons résultats. Il fallait vraiment avoir des résultats excellents pour réussir dans la vie.
Oui, mon père était délégué des parents d'élèves, donc il assistait au conseil de classe. Donc effectivement, j'avais une pression assez immédiate de ma famille. Mais c'est vrai que moi, j'estime que je suis privilégiée parce que j'ai eu des parents très très présents, qui n'ont eu que 2 enfants, qui m'ont accompagnée.
Le choix d'avoir deux enfants.
Le choix d'avoir 2 enfants pour une famille sénégalaise est très rare. Il se trouve que j'étais bonne élève, donc j'avais des facilités, ce qui m'a aussi aidée à finalement vivre l'école sans contrainte. Moi, je trouve que le témoignage de Janvier, effectivement, est formidable et très très touchant. Mais ce que je note, c'est que c'est quelqu'un de très très volontaire. Mmh. Je pense que nous autour de la table, toutes les trois, on a quand même des caractéristiques particulières qui font qu'on a, on a pu aller de l'avant. Mmh. Et je trouve que c'est important de ne pas culpabiliser les gens qui ne parviennent pas à sortir de leurs conditions sociales, parce que sortir de sa condition sociale, se battre, ça demande en premier lieu des ressources mentales. Mmh. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut pouvoir se mettre dans une condition de dire, je vais faire ce que la majorité des gens de ma classe sociale ne font pas. Mmh. Quand Janvier dit, enfin vous avez dit avant de le
c'est
présenter,
qu'il avait... C'est lié au caractère,
c'est lié à l'estime de soi, à la manière dont on a été regardé étant enfant, comment on nous a regardé, comment on nous a encouragé et comment on s'est construit en fait en tant qu'individu. Est-ce qu'on a été considéré comme quelqu'un d'honorable, comme quelqu'un de valable? Moi je sais que j'ai eu un regard très bienveillant pour moi qui m'a construit une très forte estime de moi. Et puis après, quand vous disiez que Janvier par exemple a marché 24 km tous les jours pour aller à l'école, ça veut dire qu'il marche. Donc s'il était en situation de handicap, il n'aurait pas pu faire cela. Ça veut dire aussi, quand il a dit qu'il avait fait des fouilles, peut-être qu'une femme se serait posée d'autres questions. Peut-être quand on est une adolescente, on va pas marcher toute seule 24 km. Peut-être qu'on va pas faire des fouilles pour financer ses études. Donc il y a des obstacles qui sont liés aussi à ce qu'on est en tant qu'individu. Et donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas tout faire pour s'en sortir. Et je pense que c'est important. C'est-à-dire que moi, à mon échelle, je sais que j'ai réussi à dépasser un certain nombre d'obstacles sociaux. Mes parents sont aussi ouvriers, sont aussi originaires du Sénégal comme un des parents de Absatou. Mais je ne veux pas faire de mon cas un exemple absolu et culpabiliser les personnes qui n'ont pas eu la même chance que moi et qui n'ont pas eu la possibilité de s'en sortir de la même manière que moi. J'ai conscience de ma chance, j'ai conscience de mes privilèges et je sais que d'autres n'ont pas forcément toujours les mêmes ressources. Il faut aussi avoir des ressources psychologiques. Parfois, on n'est pas bien. Des gens qui sont en dépression et c'est difficile d'aller au-delà. Donc, ça veut dire qu'il faut être accompagné, il faut être suivi, il faut être soutenu.
Grâce, est-ce que vous avez été vous-même soutenue par votre famille? On a toujours ce cliché sur, justement, la jeune fille d'origine asiatique qui est bonne en maths, qui est excellente, pas un mot plus haut que l'autre. Vous avez été soutenue et vous avez dû, j'imagine, aussi vous révolter contre ces clichés.
Alors oui, c'est vrai que ce cliché-là, chez les Asiatiques, en Occident, il fonctionne beaucoup. C'est-à-dire que les Asiatiques seraient plus disciplinés, ils seraient meilleurs à l'école, plus sages, plus dociles, meilleurs en maths.
Étiez bonne en maths? Vous avez fait des études de droit, non?
J'étais vraiment nulle en maths.
Ah bah voilà.
Je pense que je suis le contre-exemple de ça. Mais même quand j'entends Rokaya et Absatou, je voudrais dire que ça brise l'image que nous avons de l'échec scolaire, parce que je pense que le déterminisme social, on l'évoque souvent pour parler d'échec scolaire, pour dire regardez ces enfants d'immigrés, ça ne fonctionne pas pour eux parce que je ne sais pas x raisons que les sociologues ont trouvé pour justifier en fait quelque chose qui enfin la place dans la société de ces personnes-là. Et donc là, quand je vous entends toutes les deux dire mes parents ils étaient d'une classe sociale moins privilégiée que vous aujourd'hui et que vous êtes battus pour ça, je me dis mais là c'est l'anti-exemple de ce qu'on dit, c'est-à-dire que le déterminisme. Ce que je veux dire, c'est que on se bat tous, mais certains se battent plus que d'autres.
Bien sûr.
Et pas en fonction de leur compétence. Et donc, moi, effectivement, j'ai dû me battre aussi contre ces clichés-là en disant tu étais plus docile. Est-ce que ça veut dire que je peux pas parler? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas, moi, du coup, aller porter un regard critique sur quelque chose, puisque être docile, c'est aussi aller dans le sens de la société, du dominant, voilà.
Mais est-ce que vous-même, vous aviez conscience qu'il fallait faire peut-être plus que les autres pour réussir? Est-ce que vous aviez conscience qu'il fallait peut-être plus travailler que les autres? Est-ce que vous voyez ces obstacles devant vous? Janvier a parlé d'obstacles, il n'était pas accompagné, pourtant il a bravé tout cela et il a continué ses études. Vous étiez plutôt dans un milieu bienveillant qui vous poussait à faire des...
Alors moi, je crois que... Moi, mes parents me l'ont dit et je pense que rares sont les parents d'enfants issus de l'immigration ou même issus de classes sociales populaires à qui on n'a pas dit « tu ne devras pas faire deux fois plus que ce que les autres font puisque tu dois faire tes preuves deux fois plus pour avoir la même chose. » Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui pose problème. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas faire deux fois plus pour avoir le même salaire. Moi, je veux faire la même chose que tout le monde et toucher la même chose, en fait. Je pense que c'est une question d'égalité. Donc,
Mais c'est pas le monde dans lequel nous vivons.
Je crois que si.
Et je pense surtout que, en fait, dans la société dans laquelle on vit, si on parle d'une société mixte, peut-être de la France, mais quand on regarde Janvier, dans son environnement, il avait des jeunes qui avaient les mêmes postulats de départ que lui, sauf qu'il a couru plus, comme dit Rokaya, il avait peut-être plus de force, plus de détermination, etc. Donc c'est pas lié, à mon avis, à l'origine ou à quoi que ce soit. C'est lié à autre chose.
Et ce n'est pas lié au regard de l'autre. C'est ce que vous dites un petit peu aux projections de l'autre. c'est vous finalement qui décidez de la place que vous devez prendre. Nous avons un témoignage de Bamako, Aruna. Bonjour. Alors Aruna, lui aussi, il a une force de caractère assez incroyable puisque sans bourse, il n'a pas pu avoir de bourse pour étudier au Maroc. Il a persévéré jusqu'à aller en France, venir ici étudier l'architecture. Bonjour Aruna, comment allez-vous ?
Bonjour Samira.
Merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous aussi, hein, vous avez décidé d'aller loin et de faire tout ce qu'il y avait en votre pouvoir pour finalement devenir qui vous vouliez être.
Tout à fait. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance en plus. Et après le bac, normalement, j'aurais dû avoir une bourse pour le Maroc, qui n'est pas arrivé. Et à l'époque, mes parents, c'est études, c'est plus que nous. C'était vraiment le credo. Et bon, ils se sont endettés pour m'envoyer au Maroc faire une école privée, Bac plus 2. Et là-bas, j'ai postulé pour les écoles en France. Heureusement, j'ai été accepté à Strasbourg et j'ai pu faire ma scolarité. C'est vrai, ça m'a pris beaucoup plus de temps qu'un cursus normal, mais je n'ai jamais lâché malgré que je n'avais pas de bourse et que j'étais obligé, comme beaucoup d'Africains, même maintenant, de travailler le soir pour pouvoir vivre. Mais l'idée... vraiment, le truc idéatique, c'était d'arriver à être ce que vous voulez être. C'était un peu ça. C'est vrai, il y a beaucoup de tentations des collègues, des camarades ou des compatriotes qui sont là-bas. On dit oui, faites des petits boulots et ne perds pas ton temps, tout ça, et puis c'est difficile.
C'est ce que Rokaya disait, il faut vraiment une force de caractère pour pouvoir finalement arriver au but quoi, qu'on s'est fixé.
Tout à fait, parce que quand on est avec des compatriotes qui envoient de l'argent au pays, que vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas voyer, parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Et c'est souvent difficile, mais vraiment, il faut avoir cette force de caractère pour pouvoir arriver à ça. Et que c'est pas particulier ou singulier comme parcours, mais ceux qui arrivent, vraiment, ont une force de caractère.
Merci infiniment Aruna pour votre témoignage. Vous nous appeliez de Bamako et j'espère à très bientôt. Avant de partir sur cette phrase que vous dites souvent, Rokaya, non, il ne suffit pas de vouloir pour le pouvoir, je vous propose d'écouter un peu de musique, de faire une petite pause. On écoute Summertime Blues de Tété.
J'aime pas croire ce qu'on me dit et remets tout en cause. Rien n'est jamais acquis, juste retour des choses. Je n'ai qu'un principe quand le réel m'annule. Esprit critique, puissance du recul. C'est ma pilule anti-summertime blues. Ma pilule anti-summertime blues. Ça se porte près du corps comme un slim fit moulé. Tu t'aimes pas mon style, prends juste une goulée. Côté anti-somme, summertime blues. C'est mon côté anti-somme, summertime blues. Ooh yeah, summertime blues. T'es vraiment mon ami. Oh et puis en fait non, j'ai déjà changé d'avis. Mais pas de condition, je n'ai qu'un principe quand le réel t'annule. Esprit critique, puissance du recul. C'est ma pilule anti-summertime blues. Ma pilule anti-summertime blues. Ça se porte au pied du corps comme un slim fit moulé. Si t'aimes pas mon style, prends juste une goulée. Côté anti-summertime blues. C'est mon côté anti-somme, summertime blues. Contemple un type ordinaire, je donne. Rien ne change quand la misère me sonne. Hey. Cet air qui colle au corps comme un slim fut moulé. Si t'aimes pas mon style, prends juste une goulée. Côté anti-somme, summertime blues. C'est mon côté anti-somme, summertime blues. J'avais écrit un truc extra, genre chanteur qui s'inclut. Mais bon là je le sens pas, alors je vous laisse là-dessus. Je n'ai qu'un principe, quand le réel s'annule. Esprit critique, puissance du recul. C'est ma pilule anti-summertime blues.
ma pilule anti-somme.
Summer Time Blues de Tété, et vous écoutez toujours RFI 7 milliards de voisins, et nous aimerions vous entendre encore et toujours au 01 84 22 71 71. Nous parlons du déterminisme social. Le déterminisme social est-il encore une fatalité? Nous en parlons toujours avec nos invités Rokhaya Diallo, Absatoussi, Grace Lee. Alors, d'après une étude de l'INSEE, les femmes issues de diversité ressentent à plus de 38% un comportement discriminatoire envers elle. Révèle at Her est un programme de mentoring développé par le Club 21e siècle depuis 5 ans. L'idée est d'accélérer la promotion des femmes issues de la diversité en entreprise, de permettre à ces jeunes femmes de se révéler et d'enrichir leur trajectoire professionnelle, quel que soit leur parcours ou leurs origines. Pendant 6 mois, elles sont accompagnées par des mentors bénévoles pour dépasser l'autocensure, le déterminisme social dont elles peuvent être victimes. Raphaël Constant a assisté à un atelier de coaching en avril 2018 à Paris. Écoutez.
Alors si on regarde quelques chiffres, vous allez voir qu'en fait l'ambition, le sentiment d'être ambitieux ou ambitieuse, c'est très partagé, hein, puisque effectivement, on est à peu près à moitié, 48% des femmes s'estiment ambitieuses, mais il y en a quand même 49% qui déclarent ne pas l'être. C'est un sujet qui est relativement tabou chez les femmes. Les hommes, c'est quelque chose qui est assez naturel chez eux, alors que les femmes, elles, le perçoivent plus difficilement. Et pourquoi, à votre avis ?
Trop s'affirmer, c'est pas très bien vu pour une femme aussi dans la société.
Pour moi, l'ambition, c'est un peu sur référentiel de quelque chose de fou, d'énorme, de quelque chose de super waouh, et j'ai pas l'impression de répondre à ce critère.
Et donc aujourd'hui, tu considères que tu n'es pas ambitieuse ? Est-ce que tu ne peux pas viser des objectifs intermédiaires avant de devenir Michelle Obama ?
Non, mais je veux pas. Non, je veux pas devenir Michelle Obama, mais ce que je trouve intéressant, c'est sa capacité à inspirer, à aider les autres. Et j'aimerais faire ça à mon échelle par rapport à un projet que j'ai. J'ai mes objectifs, je ne les ai pas encore atteints, mais je fais tout pour. Et quand je les aurai atteints, là, je pourrais me dire waouh, c'est super.
Alors, je suis Ingrid Bianchi, je suis administratrice du Club 21e siècle et par ailleurs, je suis consultante spécialisée en diversité et mixité.
Et de quel constat vous êtes partie pour créer ce programme ?
D'une part, on s'est dit que s'il y avait de la discrimination pour les femmes, par ailleurs, il y a des discriminations qui sont liées aussi à la couleur de peau ou à l'origine culturelle, il est évident que des femmes issues de cette diversité ont forcément une forme de double plafond de verre. En fait, certaines femmes peuvent être amenées à accepter des postes sous-qualifiés par rapport à leurs études et à leurs compétences, tout simplement parce qu'elles sont, on va les inciter, que ce soit leur entourage familial, que ce soit même le regard du recruteur, va les inciter à accepter ce moindre poste sous prétexte que c'est déjà effectivement très bien pour elles de pouvoir accéder à ce niveau-là. Et du coup, partent avec un retard qu'elles auront énormément de difficultés à rattraper. Ensuite, du fait de leur environnement familial, de leur éducation, de leur culture, certaines ont des difficultés à s'affirmer sur des fonctions à responsabilité et intériorisent des limites inconscientes qui vont les maintenir en retrait, les empêcher de s'affirmer, de solliciter des promotions et puis même de s'imaginer sur des fonctions de leadership. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est le manque de connaissance de certains codes du leadership. Quand vous venez d'une famille et d'une culture qui n'a pas connaissance de ces codes dans l'entreprise et qui plus est en France, ce n'est pas qu'une question de qualification ni de compétence, mais c'est bien plus des aspects qui sont liés au sens politique, qui sont liés aussi à une manière, une gestuelle, à une posture, qui fait que vous êtes plus ou moins crédible vis-à-vis de vos interlocuteurs et dont vous n'avez absolument pas conscience.
Je m'appelle Linda, je travaille dans la finance depuis bientôt 10 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec 10 ans d'expérience, je gagne 40 000 euros en brut, bien sûr.
Par an ?
Oui, par an.
Et en comparaison avec un homme ?
Ça va jusqu'à 46, 48. Oui.
Est-ce que vous avez des exemples concrets de moments justement où vous avez senti que vous n'avez pas pu accéder à un certain poste ou à certaines missions ?
C'était pour un poste dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Bah, l'entretien s'est bien passé, j'ai eu un débriefing après avec les ressources humaines et elle m'a dit que j'avais été un peu familière pendant l'entretien, ce qui m'a étonnée parce que c'est typiquement le genre d'exercice où chaque mot est pesé, bien réfléchi.
Et en off, en fait, elle m'a clairement fait comprendre que je passerais pas bien par rapport aux personnalités que je devrais rencontrer sur un poste comme ça, un poste assez exposé. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment ressenti la différence. Pour ce poste que je voulais, pour lequel j'étais motivée, ça m'a vraiment fait un choc. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me motive, que ce soit vis-à-vis des minorités ou vis-à-vis du fait qu'on soit homme ou femme. Enfin, voilà, pour moi, ça ne devrait pas être un frein. Au contraire, on a besoin de diverses compétences et je pense que c'est une richesse.
Alors aujourd'hui, vous avez intégré le programme de coaching, de leadership du club du 21e siècle. Comment ça se passe, ce coaching ?
On a un programme sur 6 mois. Il y a des rencontres avec le menti. Moi, j'ai la chance d'avoir une mentie qui a eu une bonne expérience dans un grand groupe et qui aussi a décidé de travailler dans le développement durable. Ensuite, il y a des réunions qu'on se fait selon des thématiques sur les objectifs qu'on veut travailler. Moi, en l'occurrence, c'est de trouver un poste dans le développement durable. Et donc, on travaille sur cet objectif-là. On se donne des rendez-vous, j'ai des exercices à faire. Et, par exemple, refaire un CV, entretenir sa culture RSE. Enfin, voilà, c'est vraiment très concret et on échange à rythme de tous les 15 jours et on se voit physiquement une fois par mois. En vous écoutant là, je pense à un discours de Sibeth Ndiaye qui a été élu comme porte-parole du gouvernement. Vous êtes à votre place, quelle que soit votre couleur de peau, votre sexe, voilà. Il n'y a pas de barrière, voilà.
Vous êtes à votre place. Donc, c'était le programme de mentoring Revel at Her. Merci à Raphaël Constant. C'est important de coacher les jeunes femmes pour qu'elles puissent s'émanciper de leurs conditions, du regard qu'on porte sur elles finalement. J'imagine qu'on est, en tant que femme, on n'est pas éduquée pour être leader, pour prendre le pouvoir, pour aller plus loin.
Disons qu'en tant que femme, on est socialisée pour occuper une certaine position socialement. C'est-à-dire qu'on est élevée pour ne pas déplaire. Ne pas déplaire, ça veut dire être douce, être souvent dans la séduction, rechercher l'approbation des hommes. Et cette douceur, cette pondération, cette même docilité, je dirais, sont des qualités qui sont antinomiques, par rapport au leadership. C'est vraiment toutes les qualités toutes les qualités en fait qui sont associées à la masculinité sont au contraire des qualités de chef, de meneur, de domination, etc. Du coup, quand on est une femme et qu'on veut devenir leader, il faut désapprendre toutes les injonctions qui font que prendre la parole publiquement, c'est pas séduisant. Contredire un homme, ce n'est pas séduisant. Ne pas sourire, parce que voilà, je pense que ça va toujours tous les jours arriver dans la rue quand vous souriez pas qu'un mec vous arrête en disant faut sourire. Non, des fois on n'est pas obligé de sourire et d'être plaisante. Donc cette idée-là, selon laquelle on peut se comporter de manière féminine sans forcément se conformer au canon, c'est quelque chose qui nécessite du coaching. Et vous parlez de coaching, j'ai écrit moi ce livre, ce ne reste pas à ta place, en pensant aux plus jeunes générations. Je me disais que j'avais parcouru un chemin dans lequel j'avais appris, et parfois au prix de l'échec, et que des personnes plus jeunes pouvaient finalement bénéficier de l'expérience que j'avais, tout simplement en gagnant du temps et en évitant les erreurs que j'avais pu commettre. Donc la transmission, pour moi, au-delà du coaching, la transmission, c'est très très important. C'est pas forcément dans notre culture française, francophone, le mentoring, mais je trouve que c'est important, quand on est à une certaine position, de travailler avec des jeunes, d'aller vers les jeunes, et de leur permettre d'accéder aux endroits auxquels on a eu accès à force de travail et de détermination, et d'une certaine manière de leur permettre de brûler les étapes. Ça, c'est pour moi très très important.
Ce n'est ni dans la culture française ni dans la culture d'origine finalement de celle de vos parents aussi de raconter son parcours.
C'est vrai.
Et d'être un rôle modèle parce qu'il y a beaucoup de pudeur.
Énormément.
Je vous propose maintenant de, peut-être qu'on pourra rebondir sur cette thématique-là, d'écouter le témoignage de Mariem qui nous appelle de Nouakchott, qui elle-même n'a pas eu la chance de faire d'études. En revanche, elle a tout fait pour que ses enfants puissent aller plus loin. On écoute Mariem, bonjour. Comment allez-vous, Mariem?
Ça va. Bonjour Samira, bonjour Rakaya et bonjour Absatou.
Et grâce. Grâce est là aussi.
Et grâce, bien
voilà.
Sûr. Donc, je suis très contente de réagir sur votre thématique.
Et nous sommes très heureux de vous écouter.
Quand on veut, on peut. Et moi, j'ai toujours crié à l'égalité des chances. Et pour ma part, j'ai eu une très bonne base parce que j'ai été à l'école, j'ai eu le bac, et un bac scientifique. Et moi, je me destinais à faire la médecine ou la pharmacie. Seulement, mes parents n'avaient pas les moyens. Donc, je me suis retrouvée à faire un autre cursus. Où on me disait presque c'est ça ou rien. Mais moi, au lieu de rejeter, je me suis quand même inscrite dans cette logique pour ne pas rester sans rien faire. Et j'ai étudié ce que je trouvais, par exemple l'économie, j'ai fait un peu de droit. Et maintenant, ma revanche, par rapport à tu réussis, quel que soit le milieu d'où tu viens, qu'il soit modeste ou pas, je l'ai mise au niveau de mes filles et de mes enfants. C'est-à-dire que je me suis battue pour que mes enfants aillent dans les meilleures écoles. Même si je venais d'un milieu modeste, mm-hmm. Je travaille pour payer ça. Même si, et je disais à mes filles, vous savez, le challenge pour vous, c'est quoi? C'est que vous savez qu'on n'a rien, nos moyens sont limités, mais il faut mettre le paquet pour sortir de l'eau.
Et est-ce qu'elles avaient envie de mettre le paquet pour sortir de l'eau?
Exactement. Et je vais vous dire, elles ont toutes presque réussi à avoir le bac avec la mention et ont fait de bonnes études. Et la plus jeune a intégré Sciences Po l'année passée. Et elle a commencé ce rêve très tôt. Et je lui ai dit, tu sais ma fille, pour intégrer Sciences Po, ce n'est pas facile. On n'a pas les moyens. Mm-hmm. Mais tu sais, ce que tu dois faire, c'est sortir du lot. Sortir du lot, c'est avoir le meilleur bac possible. Et c'est ce qu'elle a fait, parce qu'elle a eu le bac français avec mention très bien. Et elle a intégré le Sciences Po. Avec sélection.
Félicitations, Mariem. Félicitations à vos enfants. Vraiment, c'est un très, très beau parcours, un très, très beau témoignage que vous partagez avec nous. Merci infiniment de nous avoir appelés et j'espère que nous aurons l'occasion de vous accueillir à nouveau dans cette milliard de voisins. J'aimerais revenir sur cette phrase que Mariem a prononcée, quand on veut, on peut. Je sais, Rokaya, que et c'était la première fois, en fait, que j'entendais quelqu'un qui disait « Ben non, en fait, il faut arrêter de dire ça ». J'aimerais que vous partagiez avec nous votre idée sur cette phrase, ce proverbe « quand on veut, on peut ».
Je pense que la première des choses à dire, c'est qu'on vit dans un monde qui est profondément injuste. On a parlé des inégalités femmes-hommes, on peut parler des inégalités nord-sud, de gens qui sont dans des pays pauvres ou non, des inégalités de classe, ce qui fait que dans un monde structurellement injuste, la volonté individuelle ne peut pas suffire à modifier un destin. Donc on peut individuellement, évidemment, arriver à corriger des choses, mais je pense que le fait de faire reposer la transformation d'une société, d'une structure sur un individu, c'est extrêmement culpabilisant et finalement, ça nous interdit de poser les questions sur les injustices qui, en fait, dépassent les individualités. Et donc, de dire aux gens, quand on veut, on peut, c'est d'une certaine manière de dire, si on n'y arrive pas, c'est qu'on l'a mérité. Donc les gens qui sont en position de pouvoir, qui sont en position de richesse et de réussite économique, l'ont mérité parce qu'ils l'ont voulu, et ceux qui sont en échec l'ont...
Oui, mais vous avez l'air de dire qu'il faut quand même commencer par déconstruire et faire en sorte de vivre dans un monde plus égalitaire pour pouvoir réussir. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça?
Non, on n'a pas le temps. Mais la preuve, c'est que la plupart des gens, en fait, ne sortent pas de leurs conditions sociales. La réalité, c'est que nous trois, nous sommes des exceptions. Si vous regardez les études sociologiques, la plupart des gens qui sont nés dans nos milieux, ils sont encore et ne sortent pas. Enfin, moi, j'ai vécu dans une cité. Quand j'y retourne, je vois que beaucoup de gens ne sont pas sortis de leur cité. Donc,
comment vous expliquez votre
réussite? C'est pas quelque chose qui est la majorité.
Parce que vous toutes les trois, vous avez parlé de chance. Vous avez parlé dans votre livre, vous parlez beaucoup d'opportunités aussi qu'il faut saisir absolument toutes les opportunités. Vous avez parlé de chance, vous avez dit on m'a proposé une chronique en télévision, ça n'arrive pas tous les jours, après ça vous est arrivé également grâce aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et qu'est-ce que c'est que la réussite finalement?
Moi je pense déjà que le quand on veut, on peut, quitte à se mentir à soi-même, faut y croire. Tout à l'heure, on parlait de l'exemplarité, du fait de coacher, etc. C'est quelque chose qu'on doit à la société. On le doit à ces jeunes femmes parce qu'en fait, il y a le théorique et le concret. Et les gens, ce qui leur parle, c'est le concret. C'est de voir des Rokaya, de voir des Grace en face d'elles et de se dire, moi aussi, c'est possible. Moi aussi, je peux y arriver. Et moi, je pense que moi, je me suis menti à toute ma vie en me disant, quand on veut, on peut. Parce que je pense que quand on veut, on peut au moins dépasser la situation qui est la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on sera président de la République. Ça ne veut pas être demain.
Vous y pensez?
Non, j'aime pas la politique. Non, ça veut pas dire que demain on sera à la place de Michelle Obama ou autre, mais ça nous mettra déjà dans une dynamique positive. Moi je crois beaucoup à la force du mental qui nous permettra de faire beaucoup plus de pas que ceux qu'on était conditionnés à faire si on écoutait uniquement ce qui se passe autour. Parce qu'en dehors même de ce que l'on se dit, il y a ce que la société nous dit. La société qui nous dit tu vas faire ça, qui décide pour nous. Moi j'en parle beaucoup dans mon livre en disant personne ne décidera et je serai responsable de mes réussites comme de mes échecs. Donc je pense que la réussite, en fait, c'est pas forcément de gagner des millions, c'est pas forcément de partir à l'autre bout du monde, c'est simplement déjà de changer sa condition sociale. Et je trouve que le témoignage de Mariam est extraordinaire, parce que cette volonté de mère de dire à ses enfants, on va changer les choses, et déjà une première chose, mais elle ne vaut rien si les enfants derrière ne suivent pas, n'ont pas d'exemple concret du possible. Vous savez, par exemple, en Afrique, on adore exposer en 4x3 des réussites venues d'ailleurs, d'en dehors du continent. Même s'ils sont issus du continent, ils viennent d'en dehors du continent. Il y a pourtant des réussites formidables, des agriculteurs qui ont commencé agriculteurs, qui aujourd'hui tiennent des business avec 200 personnes qui le font travailler. Et quand on les expose au regard des gens et des jeunes, ils se disent, mais il a grandi dans le même village que moi, et ça a été possible pour lui, donc c'est possible pour moi. Donc je pense que la force du mental, elle a un impact bien au-delà de ce qu'on imagine. Et moi, si un jour je décide d'être présidente de la République, ben, je le serai.
Vous nous direz, j'espère, Absatou, hein, vous viendrez ici faire l'annonce officielle. Hein.
Oui, non, je suis d'accord avec mes deux consoeurs sur ce plateau. Je crois que la réussite pour moi, c'est d'être libre, d'être qui je veux. Et je pense que pour y arriver, il faut à la fois, comme ils disent en anglais, fake it till you make it. Et c'est ce que dit Absatou. C'est-à-dire que cette ambition-là, il va falloir que je me la crée, même si je n'ai pas d'identification. Je ne peux pas m'identifier à quelqu'un qui me ressemble, qui a fait la même chose. Et bien, peut-être que je serai la première. Hein, ou peut-être que je peux m'identifier à d'autres personnes qui ont fait ce parcours-là, mais qui ne me ressemble pas, etc. Donc je peux faire ce travail d'aller voir ailleurs quelque chose qui m'inspire, et je pense que le coaching est important parce que moi j'ai besoin de m'inspirer. Tu parlais de jeunes tout à l'heure, Okaya, mais même moi, je pense que je ne me considère plus comme jeune à proprement dit, mais j'ai besoin de me nourrir de ces parcours de femmes et d'hommes qui ont réussi et qui me donnent des tuyaux pour moi gérer tous les jours ça. Et par contre, par rapport au déterminisme social, je pense que c'est un travail collectif. C'est pas un travail individuel, c'est pas effectivement à nous, à chacune de nous, d'aller changer les choses, mais on paye des impôts, on fait ça pour que justement notre société vienne à bout de ces assignations qui enferment les gens.
Est-ce qu'elle a envie, la société? Je suis pas sûre qu'elle a envie.
Mais vous avez envie, c'est peut-être suffisant.
Je pense
parce que
là, pour le coup, on peut essayer de compter sur l'addition de volonté collective pour essayer de révolutionner un petit peu ce qui ne va pas.
Mais je trouve que
c'est intéressant ce que tu disais, Absatou, par rapport à la réussite et ce que ça signifie et ce qu'on associe à la réussite. On a eu vraiment tour à tour Aruna tout à l'heure et Mariam à l'instant, qui sont deux personnes qui sont immigrées. Et je trouve qu'on ne salue pas suffisamment ce que c'est la démarche migratoire. Parce que toi, t'es une businesswoman. On sait, puisque nos parents sont immigrés, que de quitter son pays, sa langue, son climat pour s'installer dans un pays où on est étranger,
c'est pas facile, hein.
Tout reprendre à zéro, élever des enfants. Toi, tu disais que ta maman n'arrivait pas à déchiffrer les documents administratifs. Donc, être dans un environnement qui peut paraître hostile, c'est une démarche entrepreneuriale dont je pense qu'il faut vraiment la faire.
Juste un mot, et c'est très important, parce que vous avez effectivement cassé les plafonds de verre. Vous êtes dans un autre milieu social aujourd'hui que celui dans lequel vous êtes né. Et vous faites le va-et-vient. Donc ça, c'est important pour vous. Ça vous nourrit. On n'a vraiment même pas une minute. Alors,
pour moi, il n'y a pas de plafond. Il y a un ciel. Voilà, je déteste cette expression de casser le plafond de verre. Pour moi, il doit y avoir
une
notion d'infini.
Enfin, le fait de revenir dans le quartier,
moi, c'est fondamental. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je regarde mon père, ça me remet à ma place et je sais d'où je viens, parce que je sais ce qu'il a fait pour nous. Il était entrepreneur de sa vie. Il a décidé de changer son destin. Il a changé le mien en conséquence. Je lui dois énormément, et me rappeler d'où je viens et revenir de là où j'ai grandi est fondamental pour garder ses repères et mesurer aussi ce qu'on a parcouru.
Merci infiniment à vous trois. Merci pour ces échanges très, très inspirants. Vous êtes ambitieuses, audacieuses, et vous nous avez aussi dit qu'il fallait se concentrer sur soi et ne pas forcément se fier à l'avis des autres ou à leurs projections. Merci d'être venues. Je rappelle vos titres, les titres de vos livres. Okaya, ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait, chez Marabout. Absatoussi, Made in France, chez Hugo Doc. Grassly, jeune fille modèle, chez Fayard. Merci infiniment. Merci à tous nos auditeurs, merci à toute l'équipe.